1, 2, 3.
Il y a de la mousse qui est enlevée.
Oh. 3, 2, 1, c'est parti.
Je ne suis pas un être juste un imprévu.
Singulier au pluriel.
FPP.
Sur FPP 106.3 FM.
Et merde. Voilà, le merde, tu vas peut-être pouvoir le couper, hein. Bon, tu pourras le mettre comme jingle.
Les nuits de Mélie avant de tomber. Les nuits de Mélie avant de tomber. Quand les enfants de Marie vont arriver. Les nuits de Mélie avant de tomber. La mer de ce Outa va se calmer. La mer de ce Outa va se calmer. Quand les enfants de Marie vont arriver. La mer de ce Outa va se calmer. Les nuits de Mélie vont tomber.
Bonjour, comme tous les quatrièmes mardis du mois, vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net, à Douala, à Libreville, à Ceuta, enfin n'importe où dans le monde où vous avez une connexion internet suffisamment rapide pour pouvoir écouter cette émission en streaming. Elle sera très bientôt téléchargeable sur le site de l'émission qui a une adresse un tout petit peu trop compliquée pour que je la retienne, donc c'est très simple, il suffit de taper singulier au pluriel, ne pas oublier le S à singulier puisque singulier est au pluriel, sur votre moteur de recherche et vous arriverez dessus. Si en plus vous mettez RT Radio ou FPP, eh bien vous êtes sûr de tomber dessus et de pouvoir donc ensuite télécharger cette émission. Donc on est cette fois-ci toujours, hein, c'est le quatrième épisode avec Jonathan. Bonjour Jonathan.
Salut.
On est avec Guy, donc troisième épisode avec Guy dans le studio. Bonjour Guy. Si tu peux parler un tout petit peu plus fort parce que sinon personne ne va t'entendre.
Bonjour.
Non, bonjour. Et on est avec Aurélia Rotolo qui, toi, tu prépares un film sur le retour des migrants. Enfin, tu nous en parleras un petit peu mieux.
Oui, exactement, oui.
Voilà, donc donc on va continuer ton voyage, Guy, hein, puisqu'on s'était arrêté pas le mois dernier, mais il y a 2 mois. Ouais. Donc on s'est arrêté à Ceuta. Et on va aussi continuer à prendre les nouvelles du film, hein, parce que le film, hein, Ceuta 12 Prisons, est un film qui vit bien, et qui... Donc il y a toute une actualité de ce film. Peut-être on commence par l'actualité du film.
Disons que ça nous donne l'impression en plus de ne pas prendre racine, qu'il y ait des nouvelles choses à raconter chaque fois. Donc c'est un plaisir de venir ici, mais on est content de se dire, tiens, il se passe des choses nouvelles à raconter. Et donc oui, le film vit très bien. Le film est toujours projeté ça et là en France. Là, on travaille sur une sortie salle au cinéma, qui est vraiment le but que nous voulions atteindre. Et ça se profile plutôt bien, donc nous sommes ravis, parce qu'il va être plus... on va pouvoir... le diffuser au plus grand nombre, ce qui a toujours été le propos initial du projet. Et il se trouve que le film, dans ses diffusions africaines, a été donc projeté au Maroc, projeté à Ouagadougou, comme on en parlait la dernière fois, et là a atteint enfin l'Afrique subsaharienne, a atteint le Cameroun, a atteint Douala. Il a été projeté début avril à l'Institut français de Douala, parce que j'en parlais avec quelques amis camerounais qui me disaient qu'hélas, il y avait très peu de cinéma au Cameroun et que donc les lieux de diffusion sont toujours un peu alternatifs. Mais là, en l'occurrence, première diffusion au Cameroun, ce dont nous sommes très contents parce qu'il y a un nombre incroyable de Camerounais dans le film. Et en l'occurrence, il se trouve que dans la salle, d'aucuns reconnaissaient les personnages. Ah, mais tu vois bien, c'est Simon qui vit dans tel quartier, dans tel endroit. Et que ce fut un moment assez fort pour ceux qui y étaient. Hélas, je n'y étais pas, mais j'en ai entendu le plus grand bien. Et du coup, d'institut français en institut français, ils vont programmer le film et c'est plutôt chouette, et il va pouvoir être diffusé là-bas et donc donner lieu à des vrais débats et des vraies réflexions sur partir, comment partir, où partir, qu'est-ce que l'Europe. Et je sais pas, on en parlait, alors Gabon, Cameroun, c'est à peu près la même chose. Comment est-ce que tu penses que le film serait perçu s'il était montré à des proches au pays?
Ce serait d'abord une surprise, je crois. Ça va les surprendre dans le sens que on entend très facilement, c'est très facile de dire à quelqu'un, j'ai fait ci, j'ai traversé l'eau au téléphone peut-être pour que la personne fasse une image dans sa tête, mais là, ce sera une réalité de voir ce qui s'est passé. Donc, je pense que ce sera vraiment très captivant pour lui, pour cette personne-là, de voir vraiment ce qui s'est passé, quoi. Et voilà, moi, si jamais ça arrivait chez moi, je pense que ils sont nombreux déjà qui vont me reconnaître.
Ouais.
Parce qu'en fait, ils sont déjà au courant de ce que j'ai vécu. Mais ça, ce serait une preuve pour eux de voir vraiment que ce que je disais, que c'était pas facile. Et c'est en image, quoi. Ce sera là devant le regard. Et puis, ouais, ce sera vraiment, vraiment, vraiment.
Et tu dirais qu'ils auront l'impression que c'est plus dur que ce qu'ils imaginaient en voyant le film ou que oh, ça a l'air atteignable? Quelle serait la réaction face à ce que raconte
déjà
le film?
Ce Utah, c'est déjà l'Europe. C'est pas la souffrance du désert ou encore la souffrance de tous les jours au Maroc. Non, ce Utah, c'est déjà en Europe. Mais c'est vrai que ça va un peu montrer comment ça se passe, même quand tu arrives à ce Utah, comment est-ce que ça se passe dans les centres d'immigration. Et je crois que ça va aussi interpeller leur façon de voir la chose quand tu arrives à Ceuta. Donc on fait comprendre qu'on est arrivé peut-être en Espagne, de faire comprendre que ceux qui disent oui on est arrivé, on est bien logé, on fait ci, on fait ça, pourtant parfois c'est pas vrai. Donc je pense que ça va interpeller beaucoup de monde.
Ça pose des questions qui sont absolument essentielles. Et je pense à un film qui a été, alors j'avais pas prévu qu'on en reparlerait, donc j'ai pas ramené avec moi toutes les références, mais on avait fait une émission il y a quelque chose comme 2 ans à propos d'un film qui s'appelle Souami et La peur de la nuit, et c'est un ancien de Cachan, donc du squat de Cachan puis du gymnase de Cachan, qui avait acheté une caméra mais pour sa famille, pour envoyer en l'occurrence en Côte d'Ivoire, et quand il y a eu l'évacuation du squat de Cachan et l'installation du gymnase de Cachan, c'était en 2006, à ce moment-là, il a filmé, il avait un besoin, il n'avait jamais filmé de sa vie, il avait un besoin irrépressible de témoigner, il a fait des heures de film. Ce film, et il a fait ce film pour envoyer, pour montrer à la famille et au village donc pour envoyer au Mali, pour envoyer aussi au Sénégal, pour envoyer en Côte d'Ivoire, puisque lui en fait est ivoirien, mais sachant qu'avec le statut de réfugié politique, il ne pouvait pas retourner en Côte d'Ivoire. Et donc une fois que ce film a été fait, il a été projeté au Mali, notamment donc avec l'association malienne des expulsés, l'AME. Donc, il a fait tout un circuit pour projeter ce film au Mali, donc dans des endroits avec un cinéma mobile et donc dans des conditions assez invraisemblables. Et les projections ont été filmées. Ça fait l'objet d'un deuxième film où ce sont les projections et les réactions de la projection de ce film au Mali. Et c'était donc là aussi, ça pose des questions qui sont extraordinaires sur comment arriver à faire comprendre finalement les réalités qu'on vit en Europe. Et comment on reçoit ça au pays?
C'est un peu le sujet qu'on abordait précédemment avec l'idée que soit par téléphone, le récit d'une Europe vécue est jamais vrai, que soit ceux qui rentrent après coup, et on en parlait avec toi Aurélia, il y a peu de dialogue également, et du coup voilà, le film est un témoignage pur et réel d'une Europe qui n'est pas fantasmée, d'une Europe vécue par ceux qui arrivent en tant que migrants, sans papier ou autre. Toi par exemple, tu disais que ceux qui rentrent parlent assez peu, ont assez peu de contact avec leur famille, parfois même l'évitent.
Oui, alors ceux qui rentrent sans avoir réussi à accumuler quelques petites économies pour justement pouvoir changer le destin de leur famille, enfin, c'était la raison pour laquelle ils sont partis, quoi. Souvent, la famille mise financièrement, c'est-à-dire elle vend des terrains et elle mise aussi psychologiquement sur celui qui part, et quand il revient, elle attend de lui qu'il soit à même de pouvoir changer son destin. Et quand il est expulsé, ou quand il est rarement il est trop malheureux, qu'il est resté aux frontières de l'Europe, qu'il a pas du tout réussi à s'intégrer ou à faire quoi que ce soit, et qu'il décide volontairement de rentrer, il y a beaucoup de gens qui restent, qui rentrent à Yaoundé par exemple, et qui vont jamais voir leur famille parce que c'est le retour de la honte, c'est le retour de l'échec, et que ils savent qu'ils seront très mal vus s'ils font connaître leur retour. Donc Ils le font pas. Ils vont pas voir leur famille.
La Guy ?
Qu'est-ce que je vais vous dire ? Par rapport à le retour, bon, je connais pas, hein, parce que je suis pas encore rentré. Mais en ce qui concerne l'arrivée à Ceuta, le parcours, comment est-ce que les gens ils perçoivent ça, je pense, dans le pays. Surtout, le problème se trouve à ce que ceux qui sortent du pays font penser, en fait. C'est ça le problème. Parce que quand tu sors et que tu ne dis pas exactement ce qui se passe, je pense que, comme tout Africain, on sait déjà, quelque part, il y a des musiciens qui ont chanté que l'Europe, ce n'est pas le paradis. Ça veut dire qu'ils sont nombreux qui pensent qu'en Europe, on trouve facilement la vie, on est capable de, comment je vais dire ça, de réaliser facilement ses rêves. C'est ce que nous, on voit à la télé quand on est en Afrique. Donc. Alors du coup, on a cette impression de venir ici. Et quand tu as envie d'arriver là, c'est parce que tu te dis qu'ici, il y a toutes les possibilités de pouvoir le faire. Et à travers le film, ça, c'est bien parce que ce film, il va pouvoir expliquer, je pense aussi moralement, à certaines personnes que même si les rêves, ils sont là, ce ne sera pas aussi facile qu'on le pense. Ce ne sera pas aussi facile parce que c'est extrêmement dur. C'est complètement dur même. Parfois, il y en a qui n'arrivent même pas.
Et puis, je crois que le premier rêve, parce qu'on donne à chaque fois un tas de raisons de l'immigration, pourquoi les gens partent, je crois qu'il y a presque autant de raisons que de personnes qui bougent. Le premier rêve de quelqu'un qui est jeune, c'est de voyager, c'est de découvrir le monde. Oui. C'est un des premiers rêves qu'on a tous eu, moi le premier, et qu'on a tous eu à un moment ou à un autre autour de cette table, et que je pense que tous les gens qui peuvent nous écouter ont eu, à un moment, on a un âge où on a envie de découvrir le monde. Ça peut durer, ça peut rester, ça reste pas forcément. Mmh. Et ça c'est le premier rêve d'un jeune. Mmh. Et à un moment, je veux dire, moi ça m'amuse. C'est-à-dire que j'ai moi aussi passé des frontières illégalement, sans me poser la question. C'est-à-dire que j'étais entré en Algérie illégalement, c'était en 78. J'ai failli entrer illégalement en Côte d'Ivoire en 78. Algérie, ça devait être en 78 ou 77 quand j'étais entré en Algérie. Semi-légalement, en Côte d'Ivoire, bon, ben, on me demandait un papier qui n'existait pas. Finalement, on a laissé passer parce que le chef de la gendarmerie qui était là m'a dit « Mais je vais vous considérer comme... Vous êtes ami avec un frère, je vais vous considérer comme Sénégalais. » À l'époque, j'habite au Sénégal. Vous pouvez entrer en Côte d'Ivoire sans caution de rapatriement en cas de décès. Et je suis entré. Et il ne me laissait pas entrer là, mais ce n'était pas un problème. Je faisais le tour de la frontière. Enfin, je passais à pied à côté et puis c'est tout. Donc, il y a des rêves. Le premier rêve, c'est de voyager.
Après, il y a des enjeux qui sont quand même assez lourds derrière et qui font que ces passages de frontières n'ont pas les mêmes impacts pour ceux qui partent parce qu'il y a une naissance d'un enfant ou il y a une famille à nourrir. Et du coup, on n'est pas porté par les mêmes envies et par les mêmes
besoins.
Voilà, mais bon, c'est quand même une chose qui est importante. Hein, c'est cette part de rêve qui est dans le voyage est déjà lui-même un rêve.
Oui, le voyage, en fait, quand je voulais sortir, je ne venais pas en Europe. C'était pas mon objectif de venir en Europe. C'était là, je voulais à tout prix sortir pour pouvoir améliorer mon système de travail parce que après j'étais pas bien rémunéré au pays. Bon, moi je pensais qu'en quittant de là, je devais avoir un salaire un peu plus mieux que ce que j'avais l'habitude de toucher. Mais arrivé déjà en Algérie, c'était extrêmement difficile. En plus, il y avait la police derrière nous. Donc, ce n'était pas évident. Il fallait que je quitte l'Algérie. Qu'est-ce que je devais faire ? Il fallait quitter complètement l'Algérie parce que toute l'Algérie, c'était contrôle de police et tout. Donc, c'est pour ça que je suis allé au Maroc. Le Maroc était un pays plutôt free pour nous. Mais étant au Maroc, il y a ce besoin de continuer, ce besoin d'atteindre le pourquoi tu es sorti. Donc moi, je me suis dit, autant si je me retrouve au Maroc et que je vois qu'ils sont nombreux qui arrivent en Europe, pourquoi je ne vais pas essayer ? C'est comme ça que je me suis retrouvé à Ceuta. Et oui, le rêve, il est là, mais le rêve, ça dépend de ce que chacun entend par rêve, en fait. Moi, mon rêve, ce n'était pas d'arriver en Europe, mais c'était de pouvoir subvenir, donc réaliser ce que je souhaite réaliser par rapport à mon travail, ce qui est impossible dans mon pays.
Dans le rêve, il y a aussi le cauchemar.
Ouais.
Voilà. Donc on va peut-être reprendre ton voyage. Donc Ceuta. Et donc, la dernière fois qu'on en a parlé ici, tu étais coincé à Ceuta. Et donc, on disait que parmi les gens qu'on voit dans le film, il y en a quelques-uns, je crois, Nour, qui est passé, tu nous disais qu'il était en Suède.
Oui.
Sinon, donc, beaucoup de gens sont toujours à Ceuta. Ceuta, c'est un endroit dont on sort de façon assez... Enfin, c'est pas évident.
Déjà, statistiquement, au moment du film, donc c'était il y a un an et demi maintenant, beaucoup y sont toujours. Je pense à Iqbal, mais, parce que c'est un des personnages principaux, mais il y en a beaucoup qui y sont toujours. Et nous, on a rencontré pas mal de gens au moment du tournage qui y étaient depuis 4 ou 5 ans. Donc c'est vraiment des temporalités très longues.
Et qui sait, peut-être ils y sont encore, hein, parce que 4 ou 5 ans, on a trouvé, oui. Mais les filles, ça va, je pense que toutes les filles, elles sont parties. D'après ce que je sais, les nouvelles des...
Elles étaient assez peu, il
y en avait. Les amis, ouais, les quoi, 20 ou 25, un truc comme ça. Je pense que toutes les filles ont été relâchées, ont été évacuées. Mais après, ceux qui ont fait 4 ou 5 ans, genre... Je ne sais pas si tous sont partis parce que c'était plus
des Congolais notamment.
Des Congolais, oui, des Congolais qui étaient encore. Donc, je ne sais pas si tous sont partis. Mais oui, la situation de Ceuta, c'est une situation très amère. Parce qu'à Ceuta, quand je suis arrivé, oui, tu entres. Le bateau vient vous récupérer sur l'eau. Du coup, tu crois que oui, enfin, je suis arrivé. Tu remercies Dieu dans tous les sens. Mais quand tu arrives au commissariat et qu'on vous prend des empreintes, etc., et que vous arrivez au centre d'immigration, j'ai eu la chance, moi, que c'est la police qui nous accompagne jusqu'à...
Au CETI.
C'est temps de demander de marcher jusqu'au CETI. Hein. Ben, à Ceuta, quand je suis arrivé, la façon dont on vous accueille, on vous donne des trucs. Oui, là, ça va, tu te dis, je peux enfin me reposer. Ça a été dur, ça a été long, mais tu peux enfin te reposer. Mais juste 2 semaines après, tu comprends très vite où tu te retrouves. Tu comprends réellement que tu es en Europe, mais... Quelque part, l'Europe, c'est pas... Parce que moi, tu es dans un centre... Après, si tu sors comme tu veux et que tu as la possibilité de travailler et que tu as des amis, puis tu peux te faire des connaissances, peut-être comme ici en France, j'en ai, c'est une bonne chose. Mais là-bas, c'était... Tu étais dans ta bulle. Notre bulle, c'était quoi entre nous? Et même le travail, c'était quoi? Laver les voitures, faire des trucs vraiment impensables. Tu te retrouves encore à revivre, mais dans un autre sens déjà arrivé. Dans un autre sens... à revivre cette souffrance que tu as eue dans tout le long du parcours et t'asseoir dans une forêt construite pratiquement nous-mêmes et faire notre propre bouffe pour manger, pourtant tu es dans un city, c'est un truc impensable parce que quand tu arrives, tu te dis enfin je suis arrivé en Europe, mais quand tu revis ça, tu dis, et quand tu entends qu'il y en a qui ont fait 4 ans là-dedans, dans cette vie-là, franchement tu deviens... Je crois que j'ai déprimé même.
Ta tête de boxe.
Oui, c'est sa boxe, comme on dit.
Mais surtout, il y a quelque chose dont on parle assez peu, c'est la peur aussi de l'expulsion, c'est-à-dire d'être envoyé à partir de Ceuta, donc en n'ayant jamais vraiment touché l'Europe, d'être renvoyé au pays.
Ça, c'est la totale. Parce que quand tu vis, que tu vois des gens qui ont fait 4, 5 ans là, et les filles aussi, surtout les filles, tu vois les femmes qui font de la nourriture, vendre une assiette de riz avec un peu de sauce et du poisson peut-être à 5 euros, juste pour pouvoir avoir un peu d'argent. Et toujours faire, c'est dans ce rêve, tu vois les choses, elles évoluent dans ce rêve-là. Le problème, en expliquant à la famille que oui, en fait, je vis comme ça, mais en vendant comme ça, elle continue à faire croire que bon, elle arrive en Europe, elle s'en sort plutôt bien. Et elle pense même parfois envoyer l'argent au pays pour pouvoir aider. Ça dépend de ce qu'elle a laissé derrière. Mais après, c'est une souffrance, c'est une grosse souffrance de se retrouver dans ça. Et de savoir que tu peux faire un an, et après c'est un an peut-être te retrouver au pays, c'est un scandale. Parce que moi, je pense quand j'étais à Ceuta, j'étais extrêmement mal à l'aise. Il suffisait juste d'un souffle pour que je tombe. Parce que j'arrivais pas vraiment à dormir. Donc, du coup, je me baladais. Parce qu'il n'y a que ça à faire, te balader et puis aller au comédor. Aux heures de comédor, ça sonne comme si c'était dans une prison. Oui, c'est l'heure. Le matin, pareil. Après, il y a des jours que tu dois porter ton linge et tout ça. C'est vraiment.
Parce que là, c'est la peur de l'expulsion dont tu parles.
Oui. Ben oui, tu te dis. Après un beau jour, quand tu es en train de dormir, tu vois les keufs, ils entrent dans ta chambre, ils ont un papier en main, ils lisent ton nom. Là, tu te dis c'est fini quoi. Ouais, là je rentre.
Souvent très tôt le matin. Ah ouais. Raconter, hein, c'est ça.
Ouais, c'est très très tôt. Ils arrivaient très très tôt. La police, ils arrivaient vers parfois Et en plus, la façon dont il le faisait, c'est ça qui ça disait beaucoup de choses. La façon dont il le faisait, ces policiers, quand ils arrivaient. Ils bloquaient pratiquement toutes les entrées et toutes les sorties. Genre, personne ne doit fuir. C'est une façon de te faire comprendre que, en fait, tu n'es pas la bienvenue. Donc, même moi, quand j'étais dans ça, j'étais vraiment hors de moi. Parce que tu ne peux pas réfléchir. Tu es en prison, quoi. Même si c'est la belle prison, mais c'est ça, en fait. C'était cette histoire. C'était... Oui, j'étais hors de moi, j'arrivais pas à réfléchir. J'ai eu cette chance que, à Ceuta, je pouvais faire des. Même si c'est des petites business qui pouvaient me rapporter un peu pour que je puisse manger à ma faim, c'est-à-dire dans des ngandas. Parce que nous, on appelait ça des ngandas. Les gars, ils avaient fabriqué des petites maisons en plan juste en bas du city, juste au bord. Et puis là-bas, nous, on allait boire nos bières pour pouvoir oublier, chanter et danser. Et en attendant l'heure, parce qu'il fallait être entré au CETI à partir de 19h. Donc à cette heure-là, soit on rentrait déjà étant bien bourré, là ça nous permettait de dormir, soit tu continuais à la soirée comme tout le monde. Mais franchement,
pour oublier l'angoisse, en l'occurrence, la bière, l'alcool.
L'alcool, c'était juste pour oublier. Mais après, tu n'oublies pas, ça te rattrape très vite. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas le choix, on se retrouvait enchanté, parfois pour oublier aussi. C'est pas seulement pour boire, c'est pas seulement... On faisait plein de trucs hormis ça, mais ça nous rattrapait toujours. Ouais. Parce que tu ne peux pas être à l'aise, tu ne peux pas être tranquille. Tu te dis, oui, je suis en Europe. Oui, je suis en Europe. Tu es en Espagne, puisque tu utilises le 0034. Ouais. Mais bon, quand tu utilises le 0034 et que tu es incapable de peut-être faire une recharge dans ton téléphone, il faut que tu ailles laver la voiture de quelqu'un qui t'insultera, de poutra, de je ne sais plus trop quoi. Et franchement, c'est impensable de savoir ça. De ce qui s'est passé à Ceuta. Ceuta, certes, pour moi, c'était aussi un bon endroit. Hein. C'était très beau. Ceuta, c'est très beau parce que tu peux aller à la plage, mais tu peux que aller à la plage. Parce que même dans les bars, tu ne pourrais pas entrer.
Et tout seul.
Moi, j'ai une petite question sur l'expulsion. En fait, quand les migrants qui sont à Ceuta sont expulsés, ils sont directement renvoyés dans leur pays. Parce que je sais que ceux qui sont expulsés de Rabat, Tanger, Casablanca, ils sont souvent juste envoyés dans le désert entre l'Algérie et le Maroc et dans des conditions horribles.
Quand tu entres à Ceuta, quand tu réussis à entrer, là c'est autre chose, tu es expulsé directement dans ton pays. Ça dépend si l'ambassadeur de ton pays vient reconnaître. Par exemple, quand j'étais au centre de détention, si...
Donc au sud de l'Espagne, en fait, tu es envoyé d'abord au sud de l'Espagne, ce qui est là où il y a le centre de détention.
Non, mais vous deviez traverser, parce qu'on ne peut pas venir vous chercher à Ceuta directement. Vous deviez traverser en bateau. Donc, ils vont vous traverser.
Donc, tu es traité à l'espagnol.
Vraiment à l'espagnol. D'accord. Les menottes dans le dos, on te fouille jusqu'à la langue. On te fouille un peu partout. Et puis, les menottes dans le dos, vraiment contrôlé. Chacun un policier. Genre, il ne faut pas que... Je ne sais pas, mais c'est... Et après... Quand vous êtes dans la détention, il y a l'ambassadeur qui vient, s'il reconnaît que bon voilà, ça c'est mon élément, tu rentres chez toi directement. C'est pas
voilà, on n'expulse personne à partir de Ceuta. Pour décrire le processus, hein, on vient t'arrêter le matin dans Ceuta parce que ton nom est sorti. Mm-hmm. On t'envoie menotté sur le bateau qui arrive au sud de l'Espagne. Il y a des centres de détention à Tarifa, près de Malaga, enfin, il y en a plusieurs. Mm-hmm. Et ces centres-là ont légalement le droit de te garder 60 jours. Et donc, pendant ces 60 jours, ils essayent de te faire reconnaître par un ambassadeur de ton pays qui dit oui, et il est gabonais, il est camerounais, il est tchadien.
Forcément, pas forcément. Moi, j'en ai vu des Guinéens. J'en ai vu des Guinéens qui sont rentrés. Des Guinéens qui sont rentrés au Nigeria. Donc, c'est pas forcément dire qu'il va venir. S'il te reconnaît, il dit oui, que lui, l'enfant là, c'est mon élément. Tu n'as pas de chance, hein. Tu peux te retrouver au Nigeria, tu peux te retrouver au Gabon, tu peux te retrouver au Cameroun, etc. Ça dépend. Ouais, donc, c'est pas toujours... avec tout ça après avoir vécu tout ça, tu te retrouves comme ça, c'est pas évident.
Alors, en fait, il faut, donc, quand on veut expulser ou reconduire quelqu'un, il faut que la personne ait évidemment une nationalité identifiée, sinon on ne peut pas le reconduire n'importe où. Mais on reconduit quand même n'importe où, parce que les consulats, en général, alors je ne sais pas pour l'Espagne, mais je suppose qu'en France, c'est exactement la même chose. Les consulats sont payés pour délivrer ce qu'on appelle un laissez-passer. Mmh. Si on n'a pas le passeport, si tu as ton passeport, on n'a pas besoin de laissez-passer. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Et c'est donc si on prolonge la durée de rétention, 60 jours en Espagne, 45 jours en France et la directive européenne, de toute façon, c'est 18 mois. Donc, on va arriver à 18 mois. Tu as l'idée de punir l'immigration. Tu n'enfermes pas quelqu'un pendant 18 mois. Et l'idée d'organiser la, on ne parle pas de l'expulsion, la reconduite. Donc, ça va durer plus ou moins longtemps qu'on te donne, qu'on t'attribue une nationalité. En fait, ça fonctionne, ça se fait dans les 10 premiers jours. Après, c'est très difficile de trouver une nationalité. Voilà, donc c'était une toute petite parenthèse.
Et c'est un peu comme ça que toi, tu t'en es sorti, parce que donc là, on parle en fait de l'idée que dans Ceuta, il y en a très peu qui demandent l'asile à partir de Ceuta et qui s'en sortent avec l'asile. Il y en a certains qui, on ne sait pas bien pourquoi, obtiennent un premier laissez-passer qui leur permet d'aller en Espagne de manière différente. Mais pour d'autres, ils sont en fait arrêtés le matin. C'est ce qui t'est arrivé à toi.
Je te coupe pas, je réponds un peu à la question encore. Parce que ceux que tu entends au Maroc qui sont rapatriés, bon, qui sont refoulés du côté de l'Algérie, la frontière algérienne marocaine, c'est ceux qui ont souvent été pris à la barrière. Parce que moi, j'ai été refoulé comme ça au moins 4 fois.
D'accord.
Donc, vous faites la remontée à pied jusqu'à Oujda. Et Oujda, maintenant, vous débrouillez, soit vous voulez le train s'il y a le train, ou soit vous débrouillez en marchant encore jusqu'à Rabat. Bon, pas Rabat, tu ne peux pas arriver à Rabat, donc à marcher pour trouver un train qui va à Fès. Et c'est de Fès maintenant qu'on peut prendre le truc 50 dirhams pour Rabat. Très souvent, c'est ceux qui sont attrapés sur la barrière, ou bien des gars qui campent à Nador, ou Tétouan, ou. Parce qu'en fait, ceux qui campent là, c'est pour pouvoir un jour traverser. Ou bien encore ceux qui traversent en nageant, pour éviter qu'ils le soient, ils se font, je sais pas, blessés ou bien mordre par des chiens, ou je sais pas, on les refoule. Ou bien on les empêche d'entrer, en fait. Donc, okay. Et quand tu arrives au centre de détention, c'est plus le cas, c'est plus pareil. Donc c'est un autre processus.
Un autre système.
Ouais, c'est un autre système.
C'est aussi d'accord. L'Europe. Enfin, c'est
aussi le système européen, c'est ça.
Ouais, ça c'est le système.
En l'occurrence, si t'es arrêté en Algérie, on te refoulait à l'époque au Mali.
L'Algérie et le Maroc qui se refilent le bébé à chaque fois.
On le fait toujours. Quand on te prend au Maroc, on te prend à Tétouan ou à.
Pour ajouter de la pénibilité et de la difficulté.
Mais après, on sait. Eux-mêmes, ils savent déjà que c'est une habitude pour nous. Quand on part, on dit on revient. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, ils s'attendent.
Ils reviennent toujours.
Ben, ouais. Voilà. Et ça, donc il y a les accords de réadmission dont on parlera. Mais je propose qu'avant de continuer, on fasse une petite pause musicale avec un musicien camerounais que j'aime bien, qui s'appelle Francis Bébé, et qui a fait une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Si les Gaulois avaient su.
À l'école, ce jour-là, notre maître avait passé la matinée à nous raconter un épisode fort intéressant de la vie de nos ancêtres les Gaulois. Un régal. La tribu des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, vivait dans la plaine. Quelques kilomètres plus loin, c'était le village des Romains. Son chef César possédait une longue vue magique qui lui permettait de son entier. Herveus l'ambitieux, croyant que c'était une caméra de télévision, se posa devant pour être vu.
Écarte-toi de là, imbécile!
Lui cria César qui scrutait l'horizon. Je veux savoir si ces sacrés Gaulois sont toujours là.
Si les Gaulois avaient su, ils seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les blancs Gaulois, avaient été malins comme nous.
César regarde dans la lunette. Et qu'est-ce qu'il voit? Là-bas, dans le lointain, Vercingétorix et ses hommes tiennent une palabre tribale.
Les Gaulois sont toujours dans la plaine. Les Gaulois sont toujours dans la plaine,
dit César en souriant. C'est aujourd'hui que nous allons les capturer. Et toute la tribu romaine d'acquiescer.
Oui César, ave César.
Les Gaulois ne savent pas que César les voit dans sa longue vue magique. Tout doucement, ils continuent de fomenter leur petit vue magique. Tout doucement, ils continuent de fomenter leur petit complot contre les Romains. Voyant le danger qui les guette et emporté par le récit de notre maître, moi je crie aux Gaulois.
Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez à rester dans la plaine? Sauvez-vous tout de suite, sinon les Romains vont vous attraper.
J'ai crié si fort que notre maître m'a puni pour bavardage. Intempestif pendant sa leçon.
Tant pis.
Si les Gaulois avaient su,
seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres devaient rester dans la plaine. Si nos ancêtres les bons Gaulois avaient été malins comme nous, seraient loués un avion
avec la carte bleue, c'est facile.
Ce serait taillé.
Voilà, donc petit problème technique avec le CD conducteur qui ne fonctionnait pas comme il fallait. Ça devient une épidémie, hein, mais bon. Donc nous allons changer de marque de CD pour faire la conducteur, les conducteurs. Ou... De toute façon, ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir le mettre sur une clé USB. Mais en tout cas, on n'a pas pu écouter comme on voulait si les Gaulois avaient su. Et si les Gaulois avaient su, quand ils ont été attaqués par Jules César, qu'ils seraient partis au Cameroun. Ce qui est quand même beaucoup plus sympathique que ce qui se passe... Bon, ouais. Donc on parlait, tu nous parlais de la rétention en Espagne, de la rétention, enfin, au Maroc, les gens qui se faisaient arrêter, mais surtout de la rétention, enfin, du racisme déjà à Ceuta, hein, du racisme de la police et du racisme des gens en général. Des gens
en général. En fait, parce que à Ceuta, les gens ils sont inhumains. Moi, je pense comme ça, parce que tu peux pas dire bonjour à quelqu'un, tu peux pas saluer quelqu'un, c'est...
Et maintenant que tu es en France, tu sens que c'est différent ? Tu peux dire bonjour à quelqu'un dans la rue quand tu le connais pas ?
Alors, je te donne juste un exemple. Tu es dans un métro et tu es en train de prendre ta direction pour peut-être rentrer chez toi et puis quelqu'un te bouscule quand tu rentres dans le métro. Du coup, il va se tourner, il va te dire... En France, il te dira « Ah, pardon, excusez-moi. Mm-hmm. » Mais en Espagne et à Ceuta, lui, il t'enverra « Puta ». Donc déjà, il t'insulte. Au lieu de s'excuser, il t'insulte plutôt. Donc, c'est à toi Je ne sais pas comment toi tu vas percevoir la chose, mais moi franchement, en tant qu'homme, si quelqu'un il le fait, et maintenant, je crois que je vais surpasser le fait d'être un homme. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas. Je pense qu'il avait le droit, donc il se donnait ce droit de le faire, et il se permettait. C'était avec une grosse audace qu'il le faisait même. Donc, parce que lui, il savait ma position, moi je ne savais pas, je connaissais la sienne. Mmh. Et lui, il surpassait sa position pour pouvoir le faire. Me dire, pourta s'il en a envie, m'insulter de je sais pas, ce qu'il a envie, parce que moi j'étais quoi ? J'étais qu'un immigré, et je ne pouvais qu'être qu'un immigré à Ceuta. Mm-hmm. Donc, imagine-toi, peut-être tu arrives dans une plage, les gens ils sont en train de se baigner, quand tu rentres, ça prend de l'espace. Parce que voilà, il y a un black. Mais après, il y en avait qui. C'est rien que les habitants de Ceuta qui étaient comme ça. Parce qu'il faut voir que les étrangers qui venaient d'ailleurs, ils n'étaient pas comme ça.
Les Marocains, par exemple.
Ouais, mais les Marocains, c'est la même. Pour moi, c'est la même personne.
Les Marocains, c'est...
Ceuta et Marocains, c'est la même personne. Mais après, ça dépend aussi. Tu vois
Je sais que les migrants qui sont à Tanger, par exemple, les migrants subsahariens, ils se font appeler par le mot « Asie », par les Marocains. « Asie », ça veut dire « nègre ». Et c'est ça, voilà, quand il y en a un qui marche dans la rue, on entend Asie partout, et ils se font traiter. C'est quelque chose entre nègre et esclave. Et voilà, et je crois que le Marocain, quand il prononce ce mot, il ne se rend même pas compte quoi, de la connotation, tellement c'est rentré dans le vocabulaire normal.
Mais quand tu vois dans les milieux français en Afrique de l'Ouest, je veux dire, tu as des tas de Français qui ne sont pas capables d'appeler un Sénégalais, une Sénégalaise autrement qu'une Fatou. Et un Sénégalais autrement qu'un Mamadou.
Oui, tout à fait.
C'est, je veux dire que tu as des conneries de racisme qui sont éminemment partagées. Mmh. Bon, ça correspond un peu aux mêmes constructions, mais...
Mmh. Ben oui.
Et que Ceuta évolue peu, parce qu'il y a vraiment cette idée d'un territoire qui est replié sur lui-même, avec cette idée que c'est eux contre le reste de l'Afrique qui représente la seule partie espagnole, et sans partir dans les considérations politiques, parce que du coup leur vote s'en ressent aussi, on sent bien le souci de cette crainte de l'autre et de ce repli territorial qui donne lieu à aux scènes terribles dont tu parles. Il faut dire quand même que tous les Noirs de Ceuta sont migrants.
Tous immigrés, voilà. Donc après, et je pense que... Rien que ça, ça te permettait, toi, de savoir ta position. Donc, moi, étant sur Utah, la déprime, c'était dans le sens pas par que je suis migrant. Moi, j'étais déjà arrivé, en fait. Je pense que, hormis le fait que je ne savais pas ce qui devait se passer demain, j'étais quand même arrivé en Europe. Mm. Ben après, je ne savais pas ce qui devait suivre. C'était ça, l'angoisse. Mais quand il y a eu l'émeute qui s'est passée sur Utah... Ça, c'était une libération parce que ça a permis à plusieurs personnes d'être libérées. Et cette émeute, c'était pas parce que on le voulait, c'était pas parce que c'est qu'on en avait un peu marre.
D'être quand tu libéré, c'était envoyé en centre de détention.
Oui, en centre de détention.
Oui, même si il nous au moins nous sortit de là, oui, de ces 8 ans, c'était déjà une bonne chose. Même si on savait que peut-être on devait se retrouver en train de rentrer à la maison. Il y en a qui disaient, oui, autant je rentre à la maison que de rester dans ce centre. Parce que franchement, ça devenait n'importe quoi. C'était plus d'homme à homme, c'était d'homme à animal, quoi. Donc, la bouffe, on faisait n'importe quoi, on donnait n'importe quoi, on ne mangeait même plus. On te servait, tu le jetais dans le truc parce que tu ne mangeais pas, c'était tellement dégueulasse. Et en plus de ça, il n'y avait que les infirmiers qui étaient vraiment, on va dire, humains.
Et encore, toi qui as passé que moins de 6 mois, on imagine ceux qui sont depuis 4-5 ans.
Quand tu parles de l'émeute, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus longuement? C'était quand cette émeute et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, la date, je ne peux pas te dire. Parce que je ne peux pas vous dire la date parce que je ne me rappelle plus. Ça fait un an et poussière.
C'était octobre de l'année dernière, à peu près.
L'année dernière. 2002. Donc,
2011.
C'est arrivé. Je crois qu'ils avaient écrit, ils ont fait dans le journal, et en plus dans le journal, ils avaient dit que c'était un problème entre nous les Blacks, en fait, entre nous les immigrés, entre Africains et Algériens, entre Africains et Maghrébins. Donc, ce qui fait que le problème était entre nous, pourtant en fait, le problème c'était pas entre nous, c'était des gardiens, un problème entre les gardiens et nous. Parce qu'il y a eu un problème, un manque de respect au niveau de il s'est fait, le Black il s'est fait battre et pratiquement cassé le bras parce qu'il se défendait du fait de vouloir manger à l'heure, parce que le commandant normalement fermait à 19h, donc lui voulait manger et il était tard. Bon, il a demandé juste qu'on lui donne un pot de yaourt et on ne voulait pas, donc il s'est servi et puis il s'est fait bastonner pour ça. Et nous, on n'a pas compris le pourquoi la baston. C'est ça aussi. On pouvait bien le récupérer, le pot de yaourt, mais la baston, elle venait pourquoi? C'est ce qu'on n'a pas compris. Et du coup, je crois que ça a mis certaines personnes en colère de la façon dont on l'a traité. Parce que c'était plus que le gardien, c'était tous ses collègues sur le mec. Et ça a vraiment mis les Blacks en rogne. Et déjà, avec ce qui se passait, le manque de respect et tout ça, ça. Je crois que ça. Si on veut, c'est l'eau qui a débordé un peu. Donc, c'est ça qui a fait que l'émeute, elle a. Bon, ça n'a pas créé un vrai problème parce qu'après, ça s'est calmé. On a réussi quand même à calmer nos frères pour. Mais juste après, les noms sortaient plus facilement, la police était déjà là. Donc
en fait, ça vous a uni en tant que groupe et ils étaient obligés de séparer éléments du groupe en les envoyant en centre de détention.
Après, c'est le centre de détention. Si tu ne fais pas 60 jours, on ne va même pas te reconnaître, on te libère.
Toi, tu as été envoyé très vite après ces événements, justement?
Oui, et j'ai même pas fait. Je crois que j'ai fait une semaine.
Ah ouais.
Juste après l'événement, j'ai fait une semaine parce que je crois que. Ouais.
Et donc c'était quoi, un matin tôt, on a frappé dans
ta chambre? Non, c'était plus parce qu'on était tellement nombreux qu'ils le faisaient plus. Ah ouais. La police ne venait plus et tellement on était chaud qu'ils avaient peur un peu de s'approcher de nous. Donc du coup ils mettaient les noms à l'administration. Tu venais, tu voyais ton nom et puis tu prenais toi-même ta valise, tu vas au commissariat. Et puis là-bas on te passe au questionnaire, on te pose les questions, on te met en minute et puis on te.
T'étais plutôt content de voir ton nom, du coup, non?
Ah oui, ils sont même. Dès que tu voyais le nom, c'était ouais, je m'en vais, même si tu rentres au bled, tu vois. Imagine un peu ça, après tout ce que tu as vécu, même si tu rentres au pays à cet instant, tu es content.
Ouais,
je me libère, quoi. C'est une libération de cette souffrance-là, même si c'est dur de savoir que tu peux rentrer, tu sais pas ce qui va se passer devant, tu y vas quand même.
C'est l'étape d'après, c'est logique.
Comme toujours. Déjà, même qu'en arrivant au Maroc, tu ne savais pas ce qui devait se passer. Mais tu es arrivé en Europe, tu ne sais pas ce qui va ainsi de suite. C'est un peu comme ça.
Donc là, tu étais menotté, tu t'es emmené dans le bateau?
Oui, ils nous ont d'abord passé au questionnaire, après ils nous ont menotté, on est allé au bateau. Après le bateau, c'est le centre de détention, oui. Et puis.
C'est quoi, Tarifa?
C'est Tarifa.
Alors, comme une question, tu arrives au commissariat avec. Donc, tu es convoqué au commissariat avec ta valise, tu vas avec ta valise, et tu ne sais pas où tu vas à ce moment-là. Tu sais que tu vas au commissariat, et à partir du commissariat, tu ne sais pas si tu retournes Gabon ou si tu vas en Espagne.
Ouais.
Et à ce moment-là, on te menote.
Mais il faut dire quand même que nous, on est bien informés. Parce qu'avant que tu ne partes, il y en a qui sont déjà partis avant toi. Donc, du coup, quand lui, il arrive devant, il appelle derrière pour dire comment ça se passe devant. Donc, moi, honnêtement, je savais qu'on devait me libérer parce que, déjà, moi, mon pays,
Il n'y a pas d'ambassadeur.
Voilà, il n'y a pas d'ambassadeur en Espagne. Donc, du coup, je savais que d'office, je vais être libéré. Et je ne devais même pas passer 60 jours parce qu'en plus de ça, il y avait la masse derrière. Donc, il y en avait encore qui entraient. Moi, quand je partais, il y avait quoi ? Il y avait encore un bon nombre de personnes qui étaient entrées au centre d'immigration. Donc, du coup, on devenait un peu trop nombreux. Et je pense que pour eux, c'était un moyen de nous libérer. Comme nous, on voyait ça, on essayait de calculer par rapport au nombre que nous, on était. Essayer de voir dans les champs par rapport au... pouvoir. On savait un peu le fonctionnement de là-bas, en fait. On savait comment ça se passait. Et même devant, ceux qui arrivaient devant au centre de détention, il y en avait qui faisaient même pas. Je reconnais qui ont fait 15 jours. Et ils ont été libérés. Parce que, bon, le pays n'est pas. Il n'y a pas d'ambassadeur. Donc, du coup, ça sert à rien qu'on les garde. Et voilà, quoi. Moi, je savais d'office que j'arrivais là-bas. Je devais seulement patienter. Et.
Voilà. Et tu es resté combien de temps ?
Au lieu de 60 jours, j'ai fait 25.
C'est déjà pas mal.
Ouais, j'ai fait 25 jours.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de comment ça se passe dans un centre de rétention ? Mais par contre,
quand tu rentres, c'est rappel à l'ordre. Hein. C'est un peu comme un prisonnier qui rentre en prison.
Même par rapport au CETI, t'as l'impression que c'était beaucoup plus.
Non, mais là, c'était dur. Les gars, ils avaient des matraques. C'est genre vous déshabiller tout nu. Contrôle complètement avec des gants parce qu'il y en avait qui rentraient avec la drogue, donc du coup c'était vraiment très très dur. Et on avait une petite cour déjà où on nous amène là, à Tarifa. C'est un coin qui est complètement retiré de la ville et qui est, on va dire, c'est sur une plateforme et juste à côté tu vois quoi, de l'eau. Donc si tu veux fuir, d'office tu vas te, je sais pas, ou tu te noies ou tu vas mourir, je sais pas. Donc quand nous on est arrivé, c'était complètement désert. On se demandait même s'il y a des gens qui vivent là. Ça te fout la peur d'abord de voir ça, tu flippes. Mais juste à l'intérieur, quand tu traverses les grilles, tu comprends. Nous on se reconnaissait à travers rien qu'à travers nos voix. Donc je pouvais savoir, moi quand j'arrive, je m'a parlé un peu. Question de savoir s'il y a des gens à l'intérieur. Si quelqu'un il entend ma voix, quelqu'un que je connais, il va crier à haute voix pour me dire que lui aussi il est là. Donc rien que le fait de savoir qu'il est là, je suis content. Parce qu'il va, moi, arriver sur place, il va me donner les informations de comment ça se passe là sur place et comment je dois me tenir. Parce que je ne comprends pas l'espagnol. Je ne comprenais pas l'espagnol en ce moment. Donc c'était que nos proches qui nous mettaient au courant de comment ça avançait et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, ils vous fouillent, après ils vous font un petit briefing avec les matraques. Si tu t'amuses, on te frappe et tout ça.
Toujours en espagnol, ça.
Ouais, c'est en espagnol. Et il y en avait au moins un, deux de tous les ce sont pas des policiers là. Hein. C'est, je sais pas comment on appelle ça. C'est un peu comme des commandos policiers, si tu veux. C'est genre. Les gars, ils étaient vraiment baraqués, debout, mais tu comprenais que si tu t'amuses, ils sont capables de tout. Mais après, ce sont des hommes comme nous. Mais, et il y en avait vraiment, vraiment, ils te faisaient savoir que je suis raciste. Tu t'amuses, alors t'es mal barré, donc tu te tenais vraiment debout. Quoi. Quand il était là, je crois que tous les blacks étaient debout. Mais après, ils avaient un peu peur des blacks aussi baraqués. Donc ils avaient un peu peur parce qu'ils savaient que non, les gars, ils peuvent se défendre. Mais... Moi, j'ai eu cette chance que partout, comme partout, je passe. Je suis arrivé. La femme qui nous servait à manger avait besoin de deux mecs pour pouvoir lui donner un coup de main, question de faire les tables. Donc, du coup, on va dire que j'ai fait une bonne apparence parce que je lui ai donné ce coup de main. Elle m'a apporté des vêtements. Et pendant ce temps, quand elle venait, chaque jour qu'elle venait, je lui donnais un coup de main pour servir. Et c'est comme ça, finalement, elle venait seule. Et. S'il y avait un truc à faire, je faisais avec elle. Donc moi, j'étais le cuisinier bien vu de tout le groupe. Et quand il est arrivé le temps de sortir, l'ambassadeur de la Guinée est venu. Il a reconnu les Guinéens. Eux, on les a envoyés chez eux. Et après, on nous a libérés.
Ils n'ont même pas essayé avec toi de te reconnaître. Enfin, personne n'a essayé de...
Non. Personne n'a essayé. Parce qu'après, ils ont cité, je crois, le 20e, parce que je comptais le 20e jour. J'ai commencé un peu à flipper parce que j'avais un peu peur. Je ne savais pas ce qui devait se passer. Mais quand il y a un mec, parce que je n'étais pas le seul, il y a un autre Gabonais qui était déjà parti. Donc quand on l'a libéré, on m'avait fait comprendre que lui, il avait eu même la chance. Il avait fait 17 jours. Mais moi, je suis un peu resté plus tard. Je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont libéré. Après, on est allé à Madrid. C'est une ONG qui est venue nous récupérer. Ils viennent nous récupérer avec des grands bus. Et là, on vous permet de vous doucher, de vous habiller, parce qu'il y en a qui viennent déjà. Comme on connaît ce qui se passe, si toi déjà tu as calculé, tu sais que soit on te libère, il y en a qui savent qu'ils risquent de ne pas rentrer chez eux. Mais moi, quand je calculais, je me disais qu'on pouvait me libérer comme je pouvais rentrer. Mais après, le pourcentage, je vais dire que j'étais à 95% de réussite. Quoi.
Donc, mais grâce à ta nationalité notamment.
Voilà, je savais que je pouvais rester. Et alors pour ça, il y en a qui achètent des petits sacs. Tu te rappelles, je t'avais demandé de me prendre un sac. Et voilà, avec ce petit sac, tu peux mettre tes vêtements et savoir ce que tu vas. Il ne faut pas quand même qu'en sortant, que tu te donnes l'apparence d'un mec qui sort d'un salon de mécanique. Donc du coup, on a pris la douche, et tranquille. Et puis après, ils nous ont amenés au centre. Au centre, mais à l'ONG, à Sigüenza, pas loin, à 1 heure de Madrid. Et puis là-bas, c'était vraiment formidable. Là-bas, je me suis permis de cuisiner, de faire ma passion, mais bon. Des moments très, très touchants. Des moments très, très forts. Des moments qui resteront toujours.
Des moments où tu étais vraiment considéré, en fait, par rapport à tout ce que tu as vécu avant. Dans l'ONG,
Oui, dans l'ONG, ouais. On va dire que j'avais une très bonne position. J'avais une chambre tout seul. Par contre, les autres étaient de deux. Moi, j'avais une chambre tout seul et je faisais la cuisine. Donc, j'ai eu la chance que je connais manier mes mains en cuisine. Donc, je sais faire plaisir aux gens.
T'avais une chambre tout seul parce que tu faisais la cuisine ?
Parce que je faisais la cuisine et parce que je donnais un coup de main, ce que certains ne font pas. Donc, c'était mon petit avantage. Non, c'était un remerciement de dire, bon, voilà, ça, c'est ça. Normalement, quand je suis arrivé, je dormais avec quelqu'un. Mais après, quand on a su que je faisais la cuisine, apparemment, il y en a pour ceux qui donnent un coup de main. Et ils m'ont changé de chambre. Et c'est comme ça que je suis resté dans la chambre là tout seul.
Et elle s'appelle comment, cette ONG ?
J'oublie très vite, moi. Bon.
Donc, on donnera la précision un peu plus tard.
Ouais.
Et donc, est-ce que tu peux nous parler aussi de la vie à Madrid donc, parce que tu arrives. Alors, si j'ai bien compris, donc tu sors du centre de rétention à Tarifa. Tarifa, Madrid, ça doit faire quelque chose comme 600 ou 700 kilomètres.
Oui, mais on est quitté à Tarifa, il devait être dans les 10 heures. On arrive à Sigüenza, il devait être dans les 2 heures du matin.
Et il y a un car qui t'amène, enfin,
C'est le bus. On était. Non, mais ça va, quand tu sors déjà du centre, tu n'es plus. T'as plus cette apparence d'immigré ou de clandestin. C'était, ouais, tu commences ta vie.
Tu prends le bus, je veux dire, c'est des transports en commun.
Tu pouvais, si tu voulais, quand tu sors. Tu peux
encadré.
Qui t'a emmené à Madrid, en fait ?
C'est l'ONG qui vient nous chercher. D'accord. Ils vous proposent de vous amener. Oh, parce que quand vous sortez, il y a des ONG qui viennent vous chercher. D'accord. Pour vous emmener dans ces centres-là où vous serez rééduqués. Et on vous donnera un chemin à suivre. Et certains sont suivus jusqu'à... Il y en a que je connais qui sont encore là-bas, qui ont même déjà eu le papier. Oui, j'en connais qui sont venus. J'ai une amie à moi qui a resté dans l'ONG 2 ans. Elle a eu ses papiers et elle est venue rendre visite à sa famille. Et puis on s'est rencontrés à Paris. Mais tout se passe dans l'ONG. Si tu veux rester, tu travailleras. S'il y a un travail à faire, s'il n'y a rien à faire, ils vont vous rémunérer pendant un bon bout de temps. Et puis, en fait, ça dépend de comment ça se passe. Chaque ONG a sa façon de fonctionner en Espagne. Mais franchement, quand tu es dans l'ONG, ils s'occupent quand même bien des gens. On t'est plus serein quand on est à l'ONG, on t'est tranquille.
T'es resté combien de temps là-bas ?
J'ai fait 2 mois.
Et si t'étais bien là-bas, du coup, pourquoi est-ce que t'as rebougé ?
Non, bien, c'est trop dire. Moi, j'avais une destination. Je suis pas sorti pour venir rester à l'ONG. C'est pas pareil. Donc.
T'as jamais pensé rester en Espagne ?
Voilà, je parle pas espagnol. Bon, mais non, c'est vrai que je parle espagnol. Je suis resté en Espagne après quand je suis resté dans l'ONG. Moi, en fait, je suis arrivé en Espagne, je suis arrivé dans l'ONG, mais je ne pouvais pas rester dans l'ONG parce que le temps, moi, j'ai ma façon de voir les choses, peut-être un peu différente, je pense, des autres. Moi, je calcule mon temps. Je pense que j'ai des objectifs à atteindre, je dois faire certaines choses de ma vie. Et en restant à l'ONG, pour moi, c'était de perdre du temps. Et je pense que je suis assez informé par rapport à où je vais et comment je dois faire.
Il y en avait qui restaient à l'ONG ?
Oui.
Des années comme ça, il y en a qui restent ?
Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui, oui. Il y en a qui sont restés jusqu'à ce qu'ils ont obtenu le papier avant de sortir de l'ONG, que j'ai croisé même ici à Paris.
Oui. Je refais juste une petite pression de contexte sur la façon dont tu es sorti de Ceuta. En fait, au moment, donc été 2011, il se trouve que le Maroc a cessé de ralentir les flux de migrants et que donc Ceuta était totalement engorgé. Il y avait 3 fois plus de migrants que ce qu'il pouvait y avoir. Et ils ont eu un besoin à un moment de faire sortir un très grand nombre de migrants, plus de 750 en l'occurrence. Et du coup, c'est allé plus vite pour Guy comme pour d'autres à ce moment-là. Ouais. Mais tu n'aurais pas eu la même rapidité en janvier, en février, ouais, à un autre moment.
C'est clair.
Quand on t'entend, là, c'est chouette, ça va vite. Ouais. C'est pas ce qui arrive à tout le monde.
Bah oui,
que c'était aussi un moment donné où il y a eu une surpopulation terrible dans Ceuta. Qui fait
et justement, c'est qui a créé l'émeute. Parce que voilà. c'est cette surpopulation-là qui fait que des tests, eux-mêmes, ils se sentent un peu... voilà, tout peut se passer.
Et cette tout surpopulation vient de ce qu'on appelle les accords de voisinage, qui est donc l'Europe qui demande aux pays voisins, comme le Maroc, de les aider à ralentir le flux des migrants. Et en l'occurrence, le Maroc a demandé à ce que les financements pour être dans un bon accord de voisinage soient plus élevés, au point de faire grève d'arrêt de migrants, de ralentissement de migrants. Et ce qui nous a amené à cette surpopulation a amené à ces émeutes ont amené à cette idée qu'il fallait désengorger Ceuta, et voilà. Ouais, mais c'est un moment donné, quoi.
Là, je suis un petit peu surpris, donc je ne connaissais pas cet épisode avec l'ONG, mais beaucoup de témoignages qu'on a des gens qui passent par l'Espagne, c'est souvent dur, l'Espagne.
C'est très dur.
Et donc, quand je dis Espagne, je pense après avoir passé le détroit de Gibraltar. Hein, c'est
Après le centre de détention, genre à l'ONG.
Ouais.
À l'ONG, c'est... Comment je vais dire ça si... si tu te lèves le matin, tu vas déjeuner, et puis après, tu glanes, hein, tu fais rien. Tu...
Mais là, il y avait quand même moins de racisme. C'était...
Non. L'ONG, on a la chance que... À l'ONG, c'était un Algérien. Moi, dans mon ONG, c'était un Algérien. Je vais dire français. Mais je ne sais pas s'il était français ou espagnol parce qu'il parlait...
Francophone.
Ou francophone, ouais. Et c'était quelqu'un, franchement, qui avait un cœur de... Il était très humain. Et si on avait un problème, on l'attendait, quoi. Mais là-bas, déjà, nous, on avait... Parce que quand tu arrives, la pression de l'aventure, de tout ce que tu as vécu, on va dire, ça se calme tellement que tu ne vois plus, avec ce que tu as eu à vivre, tu ne vois pas le pourquoi tu vas être désagréable avec les gens. Au contraire, s'ils sont agréables avec toi, tu feras le plus qu'agréable. Et avec eux là-bas, c'était... Oui, j'étais tranquille, je me reposais, si tu veux, j'étais en train de... Chacun sait comment et pourquoi il est sorti, mais moi, j'avais un moment de réflexion sur ce que je devais entreprendre. Il te permettait d'apprendre les cours d'espagnol, les cours informatiques et tout ça. Donc, si tu voulais aller à l'école, c'était possible. Donc, il y avait tellement de possibilités de jeux et tout ça, comme dans toutes les ONG, je pense. Mais... Après, ça dépend de ce que toi, tu as envie de faire. Tu
aurais eu l'impression de tourner en rond en restant là-bas. De ne pas avancer, en tout cas, dans ton...
Et après, encore une toute petite pause musicale, hein, parce que j'aimerais bien que tu nous parles, continues à parler de l'ONG, et surtout de la vision de l'Europe, et de l'Espagne, et comment ça s'est passé ensuite, quand tu as vu le film. Non. Donc tout de suite, une toute petite pause musicale avec Jean-Philippe Riquel et Balafonica. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net à Tarifa ou à Madrid ou à Libreville ou à Yaoundé ou à Diala ou à Moscou, et comme on veut, à condition d'avoir une connexion internet suffisamment rapide pour pouvoir nous écouter en streaming. Donc, on est toujours avec Guy, Jonathan et Aurélia. Et donc, Guy, tu nous parlais de ton voyage, donc de la suite de ton voyage, et quand tu étais resté donc à Madrid dans une ONG.
Oui. Je suis resté dans l'ONG, j'ai fait deux semaines. Et pendant ces deux mois, l'ONG, il vous permet d'avoir une petite somme d'argent. Il vous permet de prendre les cours tous les jours, de prendre les cours d'espagnol. Et en plus de ça, on avait deux salles, question de divertissement. On avait les baby-foot et puis moi, je jouais au football. Donc, on pouvait aussi aller jouer au football dans le terrain de Sigüenza, ce qu'on a déjà d'ailleurs fait. On a eu à jouer avec certains clubs. Et oui, ça se passait plutôt bien, tranquille. Il y en avait qui pouvaient demander l'asile, si vous voulez. Donc, il y avait tellement d'options, ça dépendait de tout un chacun. Il y avait des propositions qu'ils nous faisaient, ça dépendait de tout un chacun, ce qu'ils voulaient faire.
Voilà. Et alors, donc, maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais tu voyais l'Europe d'une certaine façon, tu l'imaginais, tu la voyais, tu connaissais quand même beaucoup de choses sur l'Europe avant de venir. Maintenant, ça fait quand même 6 mois que tu es ici. Mmh. Comment tu vois les choses et
comment je vois les choses? C'est pas très différent. L'Europe, c'est pas très différent de l'Afrique. Sauf que en Europe, comment je vais dire?
Donc c'est différent de ce que tu imaginais?
Non, attends. C'est pas très différent de l'Afrique. Différent dans le sens qu'en Europe, tu peux pas mourir de faim. Tu peux pas mourir de famine parce que tout est tellement moins cher. Et en Europe, tu peux pas. Comment je vais dire ça? Je vais juste dire qu'en Europe, tu peux pas mourir de famine. La différence pour moi, c'est juste au niveau de l'argent. Oui, c'est ça qui. Je pense que. Et puis le climat aussi, hein, parce que c'est pas la même chose. Tu vois, tu sors du climat tropical, tu arrives ici, c'est le froid, le pollen, etc. Mais la vie de tous les jours, je pense que ça ne me surprend pas trop. Parce que, en plus, Paris, tu le vois à la télé, c'est trop beau. Mais quand tu vois en vrai, c'est encore magnifique. Mais après, la mentalité de tout un chacun, déjà que j'en côtoie pas assez. Donc, moi, je préfère rester dans mon coin parce que c'est mieux. Je pense que c'est mieux comme ça.
Tu es dans ton coin, mais tu bouges quand même pas mal. Tu vois du monde, des gens.
Oui, je vois du monde, des gens, mais c'est pas une surprise pour moi, je suis hôtelier. Donc j'ai eu l'habitude déjà de courtoyer les Français déjà depuis le pays, et c'est pas une surprise. Arriver ici en Europe, c'est juste une continuité de ce que je voulais, d'avoir à continuer à discuter avec ceux avec qui je me fais ami et tout ça. Mais la différence, non, c'est juste au niveau financier, je crois, c'est au niveau des finances, au niveau de... Bon, la mentalité aussi, hein, parce que quand j'arrive ici, c'est... Les gens ont une façon de voir, il faudrait que tu commences à apprendre. Tu dois apprendre certaines choses que peut-être au pays tu ne connaissais pas. Donc tu dois, comment on dit, tu dois t'intégrer dans ce que j'essaie de faire.
Voilà, ben écoute, je crois que tu, en tout cas, tu as bien commencé. Hein, donc on pourra peut-être refaire encore, pas le mois prochain en tout cas, hein, une nouvelle émission avec toi, parce que le mois prochain... On va recevoir, mais c'est une émission qui va être, je pense, très intéressante et pour nous tous, puisqu'on parlait du retour et comment parler de ce qui se passe ici au retour. Et le mois prochain, on va donc retrouver quelqu'un qui vient de temps en temps ici, qui s'appelle Brooke, qui est dessinateur, qui fait de la BD, et donc qui a suivi donc, en bande dessinée, hein, qui a réalisé donc deux albums sur les, donc un premier qui s'appelle Voyage au bout de l'envers sur la grève des sans-papiers, notamment sur la grève des sans-papiers, mais qui est un peu une espèce de chronique vue par lui, hein, qui est journaliste de presse. Un second album qui est sorti il y a 2 mois, je crois, on a fait une émission ensemble, hein, qui s'appelle, oulala, j'ai le titre sur le bout de la langue, mais qui s'appelle Ici on broie du noir, mais il résiste. Et un troisième album, hein, c'est un triptyque où une des personnes qu'il a rencontré notamment sur les piquets de grève, hein, qui est Madassa, a été régularisé. La première chose qu'a fait Madassa quand il a été régularisé, c'est qu'il est retourné donc au Mali. Et avec les albums que Brooke a dessinés ici, et Brooke a dessiné un album au Mali, donc qui raconte son voyage au Mali. Donc album que je vous recommande, hein, qu'on peut trouver donc auprès de RESF. Et là aussi, donc c'est par la bande dessinée, comment est-ce qu'on peut dire là-bas ce qui se passe ici. Donc on l'a fait par le cinéma, en parlant, par le téléphone, et il y a aussi par la bande dessinée. Voilà, donc je crois que au fond, près du radiateur, s'installe dans le studio, donc il va falloir leur laisser maintenant le studio. Donc merci beaucoup Guy d'être venu.
Merci aussi.
Et puis j'espère qu'on fera une prochaine émission.
Inch'Allah.
Inch'Allah, et puis quand des choses auront avancé. Merci Aurélia d'être venue.
Merci à vous.
Voilà, et puis merci Jonathan.
Merci, j'en profite juste une parenthèse finale pour clore sur l'Espagne, pour dire que Ceuta, c'est le film, Ceuta 12 Prisons, a ses deux premières projections en Espagne, le 18 mai et le 21 mai, à Madrid et à Barcelone, dans le cadre de deux festivals différents. Et on est bien contents d'avoir ces deux premières projections là-bas. On espère que ça en amènera d'autres et que ça amènera un débat, une réflexion, des idées en Espagne. Il est d'ailleurs le film en projection ce samedi à Nador, qui est en fait juste à côté de Melilla. C'est un festival de cinéma marocain et le film est projeté là-bas et on imagine que ça donnera lieu également à des discussions assez intéressantes.
Et j'aimerais bien les voir et à Nador et à Madrid. Voilà, et eh bien merci beaucoup. Donc, et puis moi je vous dis à demain, même heure, hein, 18h-19h, pour l'émission RESF.
Merci.
Merci.
Ciao.